Voyager par devoir et non plus par plaisir, se hâter, commander, obéir et par force s'oublier. Ils avaient réduit le monde à leur mesure, le monde protestait, croyaient-ils. En fait, ils ne protestaient pas, ils se déplaçaient seulement, eux se voyaient emportés par le flot. S'ils ne le connaissaient pas, ils devinaient que l'univers, là-bas, dans la guerre, n'était pas insupportable seulement par l'inconfort, mais par la rigueur, à laquelle rien ne les avait préparés, des lois qui le gouvernaient, insaisissables pour eux comme pour les autres dans leur caractère mêlé, à la fois prosaïque et cosmique. Par les fenêtres de la bibliothèque, ils voyaient un petit segment de route entre les haies, et, au-delà, les champs d'avant la moisson tremblant sous le soleil. « La moisson passera. Nous reviendrons pour les vendanges », disaient les hommes sur les chemins et dans les fermes. Quatre prolonges d'artillerie, les servants assis contre les caissons, le dos à la croupe des chevaux, passèrent au trot dans la direction de Bourges. Ils eurent à peine le temps de les voir. Un peu plus loin en contrebas, le général Grigoriev s'enfermait parmi ses insectes. Marie-Antoinette le rejoignit. On entendait les cris des enfants qui jouaient près de la serre. Jules, le fils du régisseur, passa dans la cour, une sorte de ballot sur l'épaule. Il était assez mal bâti, les épaules rentrées. Il leur avait dit au revoir, avec un regard d'enfant triste de devoir retourner à l'école. Marie-Antoinette le vit s'en aller et s'assit au pied du général qui ne parlait presque plus depuis le matin. Elle ressassait des pensées douloureuses et confuses. Un moment elle fut près d'évoquer Augustin. « Parfois je voudrais qu'ils se révoltent, dit-il. Eux seulement, ils en ont le droit, ils croient que c'est l'ordre des choses. Et c'est tout le contraire, pour ceux dont c'est le métier, ou pour les déclassés, les aventureux, les fuyards, ceux qui voient l'ordre entrer dans leur vie, au son de la musique militaire. » Il sourit, posa la main sur son épaule et reprit, « Les autres, ils ont l'habitude, mauvaise habitude, les femmes les remplaceront pour la moisson. Peut-être qu'ils reviendront vite, on le dit un peu partout et dans les journaux. Tu lis les journaux ?» demanda-t-il avec une affectueuse ironie. En ce moment c'est bien le moins. Le général voulait suivre son idée, il y revint. Je n'aime pas cette impression que dans ces moments-là, même dans ces moments-là, les choses sont à leur place. Elles ne le sont pas, n'est-ce pas ? Marie-Antoinette songea qu'il était trop vieux pour partir. Elle en fut heureuse brusquement. Ce jour d'été était comme gris, accablé d'incertitude. Au moins les enfants garderaient leur père. Comme s'il l'avait deviné, le général cligna de l'œil. « J'ai fait mon temps, l'urgent soldat, sauf le régisseur qui ne pouvait plus beaucoup travailler, il faudrait sans doute s'organiser différemment. D'abord les champs, les blés, le maïs, puis la moitié du jardin potager, accepter de voir l'autre moitié en friche comme à l'abandon. Je ferai la prune quand même, dit le général. Je m'occuperai des fleurs, dit Marie-Antoinette. Des fleurs, son esprit passa à la serre, puis à Augustin, puis à Bussy. Un sentiment d'impuissance et de révolte lui souleva le cœur. Au dehors, ses enfants l'appelaient. Les fantassins passaient à présent sur le rond. Les deux ponts successifs étaient si étroits qu'il fallait réduire le front des troupes, et la fin de la colonne piétinait en attendant son tour. Des plaisanteries fusèrent, des cris joyeux à l'adresse de deux filles qui prétendaient passer les ponts en sens inverse. « Viens donc, la Lucie, tu feras cantinière !» et toute une section d'éclatés de rire. « C'est ça, viens courir ta chance !» ajouta méchamment un petit caporal frisé, au front ruisselant de sueur, le képi sur l'arrière du crâne. La Lucie servait à boire au café des abattoirs, celui où fréquentaient les sous-officiers. C'était une longue fille brune au visage fané, aux jambes épaisses, mais dont le regard montrait de la volonté. Elle aurait donné beaucoup pour s'en aller ailleurs, quitter enfin cette chambre au-dessus de la grande salle d'où elle voyait la mort des animaux dans la cour sanglante d'en face, et le dimanche, les fous se promenaient sur la route. Elle s'était donnée à plusieurs parmi ce qu'elle avait connu là, sans beaucoup d'espoir, avec courage, entêtement. Un jour, certainement, un homme l'emmènerait, et tout serait oublié. Le piétinement sourd reprit de l'autre côté des ponts. Les gradés avaient fait taire les soldats et d'ailleurs ceux-ci, montant la côte assez raide qui menait à la mairie, économisaient leur souffle. Après une heure de marche, il n'était plus si farot. Il n'avait jamais eu tant de draps sur eux ni d'aussi beaux souliers. Il n'avait pas l'habitude de fusils aussi lourds. La chaleur du pays, elle, restait la même, mais à présent il ne pouvait plus s'échapper vers la rivière et nager dans l'eau fraîche et boueuse. Quand même il n'était pas mécontent de partir. Parfois, lorsque le temps des mères et des femmes leur pesait, ils s'efforçaient de ressembler à leur père, de jouer un personnage d'homme, faute de mieux, et cédaient ainsi à accepter. Le départ pour la guerre, c'était dans le rôle, mais c'était aussi en sortir, la liberté, l'aventure. Ne plus subir les femmes, ne plus travailler pour elles qui, génération après génération, élevaient des hommes pour qu'ils leur conviennent. Curieusement, les solitaires étaient plus réticents, eux qui n'avaient rien à faire du devoir et du bonheur, rien à fuir. Damien Courcial, qui gardait les moutons à tête noire et vivait presque en sauvage, Jean Le Peu à qui son père avait donné une petite ferme, ou le vieux Bastien, le frère de la sorcière de Corlay, gardien de nuit à l'asile. Cela avait poussé comme la mauvaise herbe sur les toits, sans se soucier du monde. Il se sentait étranger à la guerre et convaincu qu'il n'en tirerait rien. Ce mouvement ne leur disait pas grand-chose, ils étaient tristes,